Chapitre 5. Le sublimateur. Au cœur de l'arène de la Terre Ocre, les 8 bourreaux cagoulés avaient levé leurs instruments de torture, exécutant un ballet parfaitement synchronisé. Hache, machette, sabre, cisaille, tison et fouet. Dans les tribunes, les plus sensibles fermèrent les yeux. Augénor et les 3 consuls les gardèrent grands ouverts. Avec un vacarme assourdissant, les armes s'abattirent sur les suppliciés. Les bourreaux avaient frappé avec une précision chirurgicale. Des cris d'effroi et de stupeur jaillirent des tribunes. « Par toutes les étoiles du ciel ! Par Marie-Lune !» Les bourreaux n'avaient pas exécuté les condamnés. Ils venaient de les libérer. Sous le choc des lames, toutes leurs chaînes s'étaient brisées. « Fuyez, vite !» hurla le plus grand des bourreaux, hache à la main. Il ôta sa cagoule noire. Une rumeur enfla dans les gradins. « C'est Akan !» Tous les autres bourreaux dévoilèrent eux aussi leur visage. Sabi, cheveux noués en une longue tresse, d'étranges motifs de guerre indiens dessinés sur la figure, maniaient une large machette. Agnel et Mano faisaient claquer leurs fouets pour empêcher quiconque d'approcher. Wayne faisait tournoyer la seconde hache, alors que Cheyenne ouvrait les dernières chaînes à coups de cisaille. Florentine pointait son tison comme le plus dangereux des beaux, secondé par Suzy, sabre en l'air. Déjà plusieurs patrouilles de gardes impériaux se précipitaient vers l'estrade, alors que, par mesure de sécurité, d'autres évacuaient l'empereur et l'impératrice hors de l'arène. L'attaque des résistants était d'une audace folle, mais condamnée d'avance. Comment pourraient-ils s'échapper, coincés au centre de l'arène, entourés par des centaines de soldats? Aux ordres de Diana, de chaque angle des tribunes, des archers impériaux pointaient déjà leurs flèches sur le cœur des 8 résistants suicidaires. Sur l'estrade, Sabi envoya un baiser à son géant, puis un autre en direction des gradins, murmurant, suppliant presque.
« À toi de jouer, me fraise des bois !»
Aussitôt, une dizaine de silhouettes, jusque-là dissimulées dans la foule, se levèrent. Elles portaient une étrange combinaison de plastique doublée d'un fin grillage protégeant leurs mains et leurs visages. Elles tenaient toutes à bout de bras un carton et, dans le même mouvement, le jetèrent au milieu des rangées.
« En hommage à l'Empire et à sa société parfaite !» cria l'un des chevaliers en armure grillagée.
Les cartons roulèrent dans les gradins, rebondirent, puis se déchirèrent et libérèrent une dizaine de bombes bourdonnantes. Des ruches vivantes et vibrantes. Les essaims, affolés par l'explosion de leur refuge, prenaient leur envol en épais nuages, provoquant une panique gigantesque au sein des tribunes. Pour échapper aux piqûres des insectes, les compagnonnes et les compagnons se ruèrent loin de leurs sièges, se moquant de respecter la distance réglementaire entre les corporations. Les gardes impériaux, chargés d'assurer leur séparation, ne purent rien contre le mouvement de la foule. Chacun cherchait à se défendre contre les dards tourbillonnants. Rapidement, un flux de 10 000 fuyards descendit le long des gradins, tel une irrésistible coulée de boue après un orage. Les plus rapides ou les plus déterminés atteignaient déjà les sorties. D'autres, moins égoïstes, aidaient ceux qui trébuchaient pour éviter que les suivants ne les piétinent. Il devenait impossible de différencier les compagnons des soldats, les tanneurs des couvreurs, les condamnés des teinturiers. Au centre de l'arène, Agnel et Mano, Wayne et Cheyenne, Florentine et Suzy avaient sauté sur la Terre Ocre pour faire face aux gardes impériaux et couvrir la fuite des condamnés. Les mouvements anarchiques de la foule, en vagues incontrôlables, les éloignaient des soldats, puis les jetaient à nouveau face à face dans un incertain et chaotique combat. Akan et Sabi, de leur côté, avaient choisi d'affronter les consuls. Malgré la confusion générale, Jean d'Arc, Vanil et Isalis n'avaient pas bougé. Ils se défièrent un moment du regard, troublés. Une seule année s'était écoulée, et pourtant, un monde, une éternité, un gouffre semblait séparer les 2 camps auxquels ils appartenaient. Le premier réflexe de Jean d'Arc fut de se placer devant Vanil, son beau de chêne en position de défense. Akan abattit sa hache et brisa en 2 le bâton. Le généralissime ne recula pas pour autant, défiant le géant avec ses deux ridicules morceaux de bois face à la lourde arme de bourreau. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Les meilleurs combattants du tipi et du château s'étaient toujours estimés, s'étaient si souvent entraînés ensemble, avaient si souvent combattu côte à côte. Akane crut même lire une forme d'admiration dans les yeux de Jeanne d'Arc. Il laissa tomber sa hache et attrapa Sabi par la manche.
« Viens, il ne faut pas traîner !»
Sabi lui échappa. Elle s'était plantée devant Isalis. La consul, à l'instruction du peuple et aux distractions, terrifiée, tenait à peine sur ses jambes. Ses lunettes violettes étaient tombées sur la terre ocre et elle ouvrait des yeux ronds de chouette, incapable de croire ce qu'elle voyait. Son monde s'effondrait. Les gardes avaient fui. Elle n'était plus qu'une singe sans défense, ayant perdu toute arrogance, livrée à la colère de Sabi, une élève qu'elle avait si souvent humiliée, méprisée, haïe. Sabi saisit la consul à la gorge.
« Non !»
hurla Akane. Elle fit tournoyer sa machette au-dessus de sa tête. Vanille ferma les yeux. Jeanne d'Arc tendit tous ses muscles, mais Akane, face à lui, l'empêchait d'intervenir. Sabi tira la tête d'Isalis en arrière, puis, d'un coup, abattit sa machette. La lame fendit l'air, et aussi facilement que si elle avait découpé un melon, trancha son chignon. Sabi empoigna de sa main gauche la longue touffe de cheveux bruns et la leva au ciel en poussant un puissant cri d'indienne. Isalis s'effondra, ses ongles peints plantés dans ses cheveux ras et la chair presque à nu de son crâne.
« Cette fois, on y va !»
ordonna Akane. Il parvint à saisir la robe de Sabi et à la faire reculer. Puis il cria d'une voix surpuissante, couvrant le pourtant prodigieux brouhaha,
« On se replie !» Seul à jamais !»
Des voix, aux quatre coins de l'arène de la terre ocre, lui répondirent en un impressionnant écho.
« Plus jamais seul !»
Alix et Zizou couraient à travers les couloirs lambrissés du palais de l'Élysée, prenant soin de rester sur le tapis rouge pour ne pas glisser sur le parquet ciré. À l'exception de Django, enfermé dans le tunnel et d'Idriss assommé dans la chapelle, il n'avait croisé personne dans l'enfilade de chambres, salons et galeries qu'il parcourait. Zizou menait la course, se fiant à son sens de l'orientation et au trajet qu'il avait mémorisé jusqu'au salon doré.
« Pourquoi Eugénor s'est-il installé ici ?»
demanda-t-il avant d'attraper la rampe décorée de feuilles d'or d'un escalier monumental.
« D'après mes souvenirs, dans le monde d'avant, c'était le palais préféré des empereurs. Tu vois, Napoléon et compagnie. Puis il a été conservé par les présidents. »
Zizou, tout en grimpant 4 à 4 les marches, admira les lustres de cristal et les rideaux de velours vert.
« Pas étonnant que Eugénor l'ait choisi. Ça ne vaut pas Versailles ou le Louvre, mais y a pire comme petit nid douillet. »
Ils s'engagèrent dans un long couloir, bifurquèrent plusieurs fois sans jamais faire demi-tour. Puis Zizou poussa victorieusement une lourde porte de bois.
C'est ici!
Ils pénétrèrent dans un salon étincelant, doré du sol au plafond, rappelant à s'y méprendre la chambre du roi à Versailles.
Waouh!
Fit Alix.
Je confirme? Y a pire! On ne perd pas de temps, on doit trouver ce foutu sublimateur!
Alix sortit une feuille de papier de la poche de son pantalon de sport. Zizou observa le dessin grossier d'une petite boussole en forme de rose des vents. 4 aiguilles, symbolisant les ailes d'un moulin, indiquaient les 8 points cardinaux et intercardinaux.
C'est Liu qui l'a dessiné, précisa Alix. Ce sublimateur est le seul moyen de désamorcer les 8 moulins sublimes cachés dans Paris. D'après notre espion, Eugénor le garde toujours près de lui.
Zizou s'étonna.
Cet espion connaît à ce point les secrets de l'empereur?
C'est bizarre qu'un type aussi méfiant que Eugénor se laisse abuser par un traître aussi proche de lui.
Je suis d'accord avec toi, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu à se plaindre de ces tuyaux.
Alix posa les yeux sur un long bureau de bois verni, sobrement décoré d'un globe terrestre, d'un presse-papier en forme de pyramide, d'un petit buste de dieu cornu et d'une pile impressionnante de livres.
Notre espion nous a suggéré de fouiller dans le premier tiroir.
Zizou, méfiant, se pencha sur le meuble, tira sur la poignée, pesta.
Fermé. Il y a un cadran avec des chiffres. Je suppose qu'il faut un code pour l'ouvrir.
23-12.
Quoi?
23-12. Le jour du passage du nuage. Et c'est ça.
Sans réfléchir davantage, Zizo tapa les quatre chiffres. Aussitôt, il entendit un cliquetis et le tiroir s'ouvrit.
Comment as-tu su?
Notre espion, toujours.
Zizo prit un temps de réflexion. C'est plus que bizarre. Je ne vois pas Ogénor confier son code secret à quiconque, pas même à...
On jouera aux devinettes plus tard, le coupa Alix.
Le sublimateur est là?
Avant même qu'elle ait fini de poser sa question, son amoureux avait sorti l'étrange objet. Une rose des vents, à peine plus grande que celle dessinée par Liu. Sous le cadran de verre, quatre aiguilles d'or, reliées à un point central, indiquaient les huit branches de l'étoile. Dès que Zizo remuait la rose ou touchait le verre du bout des doigts, un reflet jaune pâle irisait la boussole.
« Fais attention !»
fit Alix en prenant la boussole des mains de Zizo.
« D'après Liu, c'est l'objet le plus puissant jamais conçu dans le monde d'avant. »
« Rien que ça !»
L'ancienne reine sortit une bourse de cuir de sa poche et y glissa le sublimateur. Elle posa un baiser sur la joue de Zizo, réalisant qu'elle s'était montrée un peu trop autoritaire.
« Liu nous expliquera tout au point de rendez-vous. On file !»
Zizo la retint juste avant qu'elle sorte du bureau.
« Non, c'est trop risqué d'emprunter le même chemin qu'à l'aller. S'il ne s'est pas cassé le cou en tombant dans l'escalier, Django nous attend dans le tunnel. Mieux vaut sortir directement par le jardin. »
Alix approuva d'un hochement de tête. Elle courut et ouvrit en grand la porte-fenêtre du salon. La nuit était tombée, et seule la lune éclairait faiblement les arbres de l'immense parc. Tout était calme. Elle mit un pied dehors, respirant les essences de cèdre et de séquoia qui embaumaient la dernière soirée de printemps.
Une détonation retentit, toute proche. « Cache-toi !» cria Zizo.
Alix resta pourtant debout, sans bouger, à contempler le ciel. Une seconde plus tard, une deuxième fusée du feu d'artifice du Birthday illumina la nuit.
« Viens !»
fit Alix, tendant la main sans quitter le ciel des yeux.
« Attends une seconde !»
Elle se retourna, intriguée. Zizo tenait une photo entre ses doigts.
« J'ai trouvé ça dans le tiroir, sous le sublimateur. »
Il s'approcha. Sur le cliché, une dizaine d'adultes posaient devant le dôme de l'Observatoire de Paris. Ils reconnurent l'équipe qu'ils avaient découverte 2 ans auparavant dans le laboratoire Utopie. Marie-Lune, Pierre Sol et ceux dont ils ignoraient tout, tel ce type barbu, Silver Forestier, le prévisionniste et psycho-écologue de l'équipe.
Comme c'est touchant, fit Alix, méprisante. Nonor a gardé tout près de lui une photo de papa, maman et tous les amis de la famille.
Zizo fourra le cliché dans son sac à dos. La nuit clignotait au rythme des guirlandes scintillantes dans le ciel de Paris. Alix l'embrassa sur la bouche cette fois.
« Allez, vite! C'est le moment, mon espion. On doit rejoindre les autres.
À ton avis, combien d'entre eux s'en sont sortis ?»«
Tous, j'espère. » »«
Alors, rendez-vous sur Utopia Island. »
Ils sortirent en courant, main dans la main. Au-dessus d'eux, les fusées semblaient n'exploser que pour éclairer la course des deux amoureux. Couverts par le vacarme des explosions célestes, Hélios et son armée progressaient à l'intérieur de la citadelle dodécagonale. Les soldats avaient abandonné leurs bows pour saisir leurs arcs et y engager une flèche. Ils en tenaient 4 autres dans la main gauche pour pouvoir enchaîner 5 tirs en moins de 10 secondes. Poussés par le vent, les fumées des fusées embrumaient les remparts de la forteresse dans une ambiance de bombardement d'or et d'argent. Entre 2 détonations, les assaillants entendaient toujours les rires fusés dans la cour centrale. Obéissant aux ordres muets d'Hélios, tous se plaquèrent contre le mur entourant le centre de la citadelle. Archers, ombrageurs et caracals attendaient.
« Ils ne se doutent de rien !»
murmura Helios. On va les prendre par surprise. S'ils tentent de fuir, abattez-les.
Le général leva la main.
À mon commandement ?
Et la baissa.
Maintenant !
Les archers s'élancèrent, balayant la cour et le banquet du regard, déterminés à faucher la vingtaine de résistants comme une nichée de musaraignes surprise à grignoter un sac de farine. Les caracals bondirent, prêts à briser le cou de ceux qui, malgré tout, échapperaient à la pluie de flèches. L'esplanade de la citadelle était vide. Aucun convive ne festoyait autour de la grande table dressée. Ou presque. Seules deux filles, curieusement habillées de longues capes colorées, discutaient entre deux gloussements hystériques. Un tonneau de Spitvert et deux énormes pots de lollipop se posaient devant elles. Elles levèrent à peine la tête en voyant les dizaines de soldats harnachés surgir et les braquer, puis éclatèrent à nouveau de rire.
Olympe ! S'étouffa Helios. Minerva !
Olympe et Minerva étaient deux élèves du pavillon des singes qui, après avoir soutenu Mordelia lors de l'hiver de fer, avaient préféré rejoindre la résistance plutôt que de devoir être jugées comme traîtresses par le Troisième Empire. Olympe lança un coup de coude mal maîtrisé à sa voisine.
« On a de la visite, Mimi. Regarde, ils sont venus nous délivrer. »
Minerva pouffa. Elles avaient apparemment abusé du hard dog. Elle manqua de tomber de sa chaise et se retint in extremis à la manche de son amie.
« Helios, enfin ! Un an qu'on vous attend !»
Le général reprenait petit à petit ses esprits. Ses soldats se dispersaient dans la cour, craignant un piège.
« Vous êtes seul ?»«
Oh là, oui !»
gloussa Olympe.
« Vous voulez de la menthe magique ?»
Elle renversa le tonneau. Le liquide vert coula sur la table, trempa un pan de sa cape sans qu'elle paraisse le remarquer.
« Il n'y a personne ! Nulle part !»
lança Clark, un des soldats, après avoir fouillé les alentours.
« Cherchez encore !»
ordonna Helios. Une fusée blanche illumina un instant la cour de la citadelle. Orfeo et Chado en profitèrent pour se rapprocher.
« On va lâcher nos caracals. Si ces rats se cachent quelque part ici, ils nous les ramèneront dans leur gueule. »
Le général hocha la tête. Les huit félins se dispersèrent en quelques bonds en direction du chemin de ronde, des arbres entourant la forteresse et des caves.
« Regarde, Mimi, les gros chats sont partis. »
Mimi n'écoutait plus. Totalement ivre, elle s'était endormie dans une flaque de menthe magique. Olympe ouvrit une dernière fois des yeux ronds, puis tomba à son tour la tête dans le pot de lollipops. Moins de cinq minutes plus tard, les huit caracals revenaient. Bredouille. Ils avaient au mieux déterré des os de lapin, quelques restes de poissons et des carcasses de poulets volés dans les poubelles. Un éclair bleu électrique zébra le ciel. Orfeo se planta devant le général.
« N'y a personne. Tes informations étaient fausses. Les résistants vous ont manipulé. Ils vous ont livré leur citadelle vide, avec juste deux ivrognes pour vous laisser croire qu'elle était habitée. Ils nous ont attirés ici. » Parce qu'il voulait attaquer ailleurs.
Helios fixa les flashs célestes multicolores à travers ses lunettes de soleil.
Attaquer qui? Où? Quoi? L'Empire? Avec 20 résistants sans armes ni entraînement?
Il se força à éclater de rire.
Quoi qu'ils aient essayé, à l'heure qu'il est, ils ont tous dû se faire massacrer.